Moi, j'ai retenu que nous avons un héritage. Vous aussi ?
Oui.
Que nous avons une maison là-haut, ou un château, mais qu'on n'a pas déposé les plans ou le permis de construire, c'est ça ?
Oui.
Et que nous avons des richesses. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans quelques temps, on aura la police des cultes. Alors, s'il entend tout ça, on aura un contrôle fiscal tous, hein ? Ça, c'est garanti. Hein. Quoi, des richesses ? Quoi, pas de permis de construire ? Hein. Que Dieu nous donne la liberté d'annoncer sa parole. Hein. Et même si elle coûte. Hein. Seigneur notre Dieu, c'est à toi que nous venons. Merci parce que tout ce que tu promets se réalise et se réalisera. Parce que tout ce que tu as promis s'est réalisé en bon nombre aussi. Parce que c'est toi qui veilles à ta parole. Et Seigneur, nous voulons ce matin aussi, après un temps où nous avons élevé nos yeux vers toi, nos cœurs vers toi, nous voulons te laisser parler à nos cœurs. Donne-nous d'être instruits encore par ton Saint-Esprit dans nos vies. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Et bénis la communion fraternelle, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, toi qui es notre Père. Amen. Qu'êtes-vous allé contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu somptueusement ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé faire ? Voir un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit : voici, j'envoie mon messager devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Qu'êtes-vous allé contempler au désert, c'est la parole que Jésus dit lorsqu'on vient lui dire que Jean-Baptiste avait une question alors qu'il était en prison et que les jours de Jean-Baptiste sont comptés parce qu'Hérode mettra fin suite à un caprice de la fille d'Hérodiade. Alors c'est vrai que Jean-Baptiste est un personnage absolument extraordinaire dans l'histoire du peuple juif. Bien qu'il ne garde pas trop de souvenirs de lui, parce que depuis 5 siècles, il n'y a plus de prophète qui s'est élevé en Israël. Depuis Malachie, Dieu est silencieux. Alors c'est une période très trouble et mouvementée. Il y a eu les Perses et les Mèdes, et puis il y a eu les Grecs, et puis il y a eu les Romains. Et c'est en 63 avant Jésus-Christ que qu'une délégation va demander à Rome de venir intervenir en Israël pour être, vous savez, comme les casques bleus, essayer d'apaiser la situation. La société juive se divisait de plus en plus, et en plus, Rome imposait le polythéisme, c'est-à-dire aussi reconnaître que l'empereur est Dieu, alors que les Juifs ont maintenu qu'il n'y a qu'un seul et vrai Dieu. Et Jules César va finalement accepter en 45 avant notre ère, que les Juifs ont droit de n'adorer qu'un seul Dieu et de ne pas fléchir les genoux devant lui. Quel événement! Mais Jules César n'est pas bête aussi, et en contrepartie, il va nommer un roi des Juifs, nommé Hérode, c'est-à-dire un descendant d'Édom, l'ennemi juré d'Israël. La politique, c'est du donnant-donnant, hein. On donne d'une main et de l'autre, on prend. Hein. Alors, dans ce peuple juif, dans cette société, il y en a certains qui n'avaient plus d'espoir. C'est fini, Dieu nous a oubliés. Hein. Tout ça, c'est du passé. Il y en a d'autres qui sont tombés dans les tensions politiques, avec les désaccords et les conflits, où on s'en sort plus. D'autres qui ont pris des armes pour lutter contre l'occupant. D'autres qui ont commencé à s'interroger sur la loi de Moïse avec les avis tellement divergents que on a du mal à même identifier l'identité du Messie, ce roi, le véritable roi des Juifs. Et puis il y en a qui espèrent. que Dieu va enfin envoyer celui qu'il a promis. Enfin. Et bien sûr, beaucoup focalisent leur haine contre l'occupant romain. Et dans cette toute histoire, dans cette histoire assez mouvementée, Jean l'apôtre nous dit, il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, Jean Baptiste. Alors voilà que Jean Baptiste va réunir autour du Jourdain une grande foule venue l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de la part de Dieu ? Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous aussi, dans notre cœur, on a ce désir que Dieu nous dise quelque chose pour nous, non ? C'est ça le pas de la foi. Si on va à l'église pour ne pas recevoir ou pour ne pas entendre la voix de Dieu, ou pour ne pas être sensible à ce qui a été chanté ou prié, eh bien, à la limite, c'est même pas la peine qu'on soit là. Mais si on est là, c'est que, quelque part, on sait, par la foi, que Dieu va répondre à une question, nous donner une parole d'exhortation, peut-être même un avertissement. Alors, l'histoire de son annonce, eh bien, nous le voyons en début de l'évangile de Luc. Nous savons que Jean avait donc un père, Zacharie, qui était descendant de Lévi, avec un voilà impliqué dans le sacerdoce, et puis sa mère qui était stérile, Élisabeth. Et l'ange dit à l'apparition de Zacharie dans le temple, en tête à tête, cet enfant sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Voilà, vous inquiétez pas, vous qui prenez un apéritif, on peut être rempli du Saint-Esprit. Hein. Mais ça, c'était le Naziréat de Jean, vraiment mis à part pour servir Dieu. Jean n'entrera pas dans l'office, dans le travail du service officiel et sacrificiel dans le temple. Alors il a une particularité, ce Jean. Il aura un mode de vie, mais très à la mode aujourd'hui, hein, écolo à 100%. Hein. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert, nous dit Jésus. Qui est cet homme ? Vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir. Un homme à un régime alimentaire très particulier, sauterelle et miel sauvage. Je sais pas si ça vous dit, hein. Bon, on est trop gâtés, nous, hein. Qu'êtes-vous allé voir, hein? Quelqu'un qui amuse les foules. Eh bien, en réalité, il dit, vous êtes allé voir un prophète, hein. Cet homme est aussi un homme de prière. Cet homme est un homme qui enseigne même ses disciples à prier. Cet homme est quelqu'un qui reçoit de Dieu. D'ailleurs, il est dit que le petit enfant, Jean, eh bien, grandissait et son esprit se fortifiait, mais qu'il vécut plus tard dans les lieux déserts. Ne le cherchez pas en ville, hein. Ne le cherchez pas sur le net. Il est dans le désert. Il faut faire l'effort d'aller le chercher. L'effort de chercher Dieu. Hein, on cherche quand on a soif. On peut pas faire boire un âne qui a pas soif, non? On le dit, hein. On cherche quand on a soif. Alors, bien sûr, cet homme va intriguer les responsables religieux parce qu'ils scrutent la venue du Messie, eux aussi. Mais avec une idée qui leur est particulière. Parce que pour eux, le Messie, c'est ce roi qui libère. Hein. C'est ce roi qui va enfin chasser les Romains et faire la guerre à l'occupant. Et même Zacharie avait compris ceci, parce que quand on voit le cantique de Zacharie, il est dit qu'il délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Hein? Alors c'est pas évident d'avoir une bonne conception du Messie. C'est pas évident. Alors voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs, les responsables, envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, lui poser une question. Qui es-tu? Qui es-tu? La première question que pose la délégation, c'est pas, dis-nous si tu es le Messie, parce que c'est lui que nous attendons. Mais seulement, qui es-tu? Et en fait, sans entendre le mot Messie, Jean va conclure qu'il cherche le Messie. Eh bien, il dit, toi donc qui es-tu? Il confesse ça. Sans le nier, il confessa, moi je ne suis pas le Christ. je ne suis pas le Messie. Hein? Alors, ils changent leur discussion. S'il n'est pas le Messie, qui est-il? Es-tu donc Élie? Vous savez que le prophète Malachie a fermé son livre sur la promesse qu'Élie doit venir. Et les Juifs attendaient Élie. D'ailleurs, aujourd'hui même, la Pâque juive, eh bien, se passe avec une coupe sur la table et une place que personne touche, parce que c'est la place de Élie qui va venir. Hein, il a été pris par un char de feu, il n'a pas connu la mort, et les Juifs l'attendent aujourd'hui encore. Alors, c'est peut-être lui. Et Jean dit, non, je ne le suis pas. Alors, s'il n'est pas le Messie, s'il n'est pas Élie, ils se disent, mais il est peut-être le prophète. Es-tu le prophète? Celui dont Moïse a dit, viendra un prophète parmi tes frères, et lui vous l'écouterez. Et Jean, il leur dit, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu? On dirait qu'on est en train de l'interroger pour le troubler. Hein? Est-ce que tu sais qui tu es? La semaine dernière, il y a 2 semaines, Étienne nous parlait de Moïse. Hein? En fait, Moïse dit, mais qui tu es toi, Seigneur? Hein? C'est important ça, de savoir qui est Dieu. Qui sont ceux qui ont écrit la Bible? Es-tu le prophète? Parce que Moïse a dit, je leur susciterai du milieu des frères un prophète. Comme toi, Moïse. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà Jean submergé de questions. Alors lui est clair. Qui est-il? Eh bien, il est dans l'humilité. Avec ses propres mots, il dit, je suis simplement la voix de celui qui crie dans le désert. Vous avez entendu un homme crier dans le désert? Ça touche une femme. Oui. Mais on en parlera après. Hein? Est-ce que c'est entendable? Est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est triste? Non. C'est pas dans le désert que l'on doit proclamer le message de Dieu. Et pourtant, c'est là que Dieu nous rencontre. Quand il n'y a plus rien, plus d'appui, nous sommes obligés de reconnaître que nous avons besoin de lui. Il est la voix. C'est la voix qui crie. Il est l'annonciateur. En fait, il dit, il est celui qui demande au peuple de préparer le chemin. La réalité et la réponse de Jean sont surprenantes. Cet homme refuse de rentrer dans le débat de qui il est, etc., etc. Mais cet homme va faire une chose. Il va faire savoir aux responsables religieux qu'ils ont besoin de repentance. Le message est plus important que l'homme. Vous savez, quand nous parlons de l'évangile, quand nous parlons de Jésus, nous faisons quelque chose qui est plus important que nous. Matthieu 3 nous dit, comme Jean voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, soyez les bienvenus. Ahlan ou sahlan, venez, non du tout. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est incroyable. Tellement ils sont sûrs de leur situation. Hein? Ils sont de descendance chrétienne, nés dans une famille chrétienne, ils ont fait toutes les obligations chrétiennes et ils pensent que tout est ok. Et Jean leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà, soyez bienvenus, vous qui avez subi les bouchons. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Hein, bonjour. N'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, pas de ces hommes, pas de ces enfants, de ces pierres-ci, dit Jean, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le message de Jean, c'est préparez-vous, le jugement est là. Et la cognée est déjà sur la racine de l'arbre. Jean est direct. Hein? Alors on peut dire, bon, c'est un russe, il n'a pas appris à communiquer, n'est-ce pas? Mais en fait, il est dans la vérité. ces sadducéens si puissants et libéraux, ces pharisiens si conservateurs, très stricts, n'ont pas été ménagés, ne sont pas ménagés par Jean. Il leur dit la vérité, le jugement est proche. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Le message de Jean, c'est l'appel à la repentance. Alors il y a une définition très simple pour définir ce qu'est la repentance. La repentance, c'est la tristesse éprouvée par le péché. La repentance, c'est la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est quelque chose, hein? Lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, il ne s'est pas dit « Oh, mon père n'a pas de douleur ». Il a pensé d'abord à sa propre douleur. Mais il a dû se dire « Mais il a été offensé, est-ce qu'il va me recevoir ?» Parce que ce n'est pas nous qui avons été offensés dans l'affaire avec Dieu. Non, non, c'est lui qui a été offensé. C'est lui que nous devons venir voir. La repentance. « Seigneur, je sais que j'étais attristé par mon comportement ». C'est à l'époque une confession publique, les gens disaient publiquement « Oui, j'ai offensé le cœur de Dieu, oui, j'ai blessé le cœur de Dieu ». Alors voilà que dans Marc, il est dit que Jean parut et il baptisait dans le désert et il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. C'est un concurrent sérieux, hein ? N'allez pas au temple, offrir des sacrifices, ça sert à rien. Ah bon ? Oui, non, ça sert à rien. Il faut dire à Dieu que ça ne va pas, que j'ai besoin de lui. Voici ma situation. Vous savez, tous les grands hommes de foi dans la Bible ont eu cette démarche de repentance. C'est la démarche de « nous avons péché contre toi, Seigneur ». Quand on lit Néhémie, ou l'histoire du peuple juif dans le désert, ou Jérémie ou Ésaïe, « nous avons péché ». Daniel dit « nous avons péché ». Nous avons commis des fautes. Il aurait pu dire, oh, c'est pas moi, c'est mes pères. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. On se dégage de toute responsabilité. Mais il y a un aveu, nous avons péché. Nous avons participé, chacun d'entre nous, à la dégradation de ce monde. Eh oui, quand on met la clé de contact sur la voiture, on dégrade un peu. Quand on ne trie pas, etc., on devient fou. Nous avons tous participé d'une manière ou d'une autre. Parce que le péché est ancré en nous. Depuis le désert, eh bien, Jean dit ceci au peuple qui l'écoute. Repentez-vous, 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 parce que Dieu a été offensé. Et Jean, l'évangéliste, nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Vous savez, c'est comme dans les couples et les familles et les relations. Quand à un moment donné, il y en a un qui dit, tu sais, j'ai foiré là. L'autre en face dit, ben moi aussi. Vous avez remarqué ça, hein? Qui est celui qui gagne? Celui qui remporte la victoire de la dispute. Hein? Non, celui qui a meilleure mémoire que l'autre. Tu m'as fait ceci, cela, cela. Non, pas du tout. Celui qui gagne, c'est celui qui dit, je te demande pardon. Nous avons péché. Et de cette repentance, il en découlait le baptême. Alors, cette histoire de baptême, c'était pas très sympathique pour un juif, en vérité. Parce que c'était assez humiliant. Le baptême était un rite qui était destiné à des païens qui admettaient que le vrai Dieu était le peuple d'Israël. Alors lui, qui n'était pas descendant d'Abraham, devait passer par la petite porte, par le baptême, pour entrer en bénédiction. Il restait un prosélyte, hein. Que Jean demande au peuple juif de se faire baptiser, c'est dire, vous êtes considérés comme des païens. Alors qu'un juif, c'est tout sauf un païen. Absolument. Alors imaginez les responsables religieux à qui l'on dit, vous devez vous faire baptiser, oui, mais pas moi, hein. Vous savez, c'est l'histoire de ce petit garçon qui, à la sortie du culte, dit à sa maman, « Ah, je veux être comme l'homme qui parle. Tu veux devenir pasteur, mon fils ?»« Oui, oui. Ah, c'est bien et tout. Tu veux apporter la bonne nouvelle aux gens ?»« Non, je veux dire aux gens ce qu'ils doivent faire. » Eux, ils disaient ce que les autres devaient faire, mais ils ne le faisaient pas. Et Jean leur disait, « Il faut vous humilier à ce point. » En fait, Jean traite les Juifs de pécheurs perdus, de païens perdus qui ont besoin de salut. Évidemment, les dirigeants ne sont pas stupides, ils ont très bien compris. Que ferons-nous donc? Que ferons-nous donc, dire les foules à Jean? Eh bien, passer par cette reconnaissance que tous nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et n'imaginez pas pouvoir dire nous avons Abraham pour père. Un peu plus tard, dans l'évangile de Luc, Jésus expliquera cela. Il dira, tout le peuple qui l'a entendu, mais donc qui a entendu le message de Jean et Jean, et les péagés ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Ah, c'est un peu compliqué ce texte, hein ? Ils ont justifié Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? En réalité, ils ont dit à Dieu, tu as raison. C'est cela, justifier Dieu. Tu as raison de me considérer comme un pécheur et de me priver de ta présence. C'est ce que je mérite. C'est cela, justifier Dieu. La foule, les Israélites qui sont passés par le baptême ont dit à Dieu, tu as raison. Et les pharisiens et les docteurs de la loi ont dit non, Dieu n'a pas raison. As-tu besoin du Seigneur ? Bien sûr, tous les jours, n'est-ce pas? À chaque instant, nous avons besoin du Seigneur. Alors, Jean n'est pas là par hasard. Il est posé là non seulement pour annoncer un message, mais ce message va plus loin. Vous devez préparer votre cœur à la venue du Seigneur. Je crois que ce message nous concerne aussi, hein? Dans ces temps troublés, nous devons préparer notre cœur au retour du Seigneur. Alors, un jour, les disciples posent cette question parce qu'ils sont aussi intrigués quand ils redescendent de la transfiguration, hein, de la montagne. Et puis ils discutent entre eux et puis ils disent, on a une question à te poser. Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir d'abord? S'il doit venir, c'est pour le Messie. Mais on ne l'a pas vu venir avec son char de feu. En fait, Jésus dit, oui, c'est vrai qu'Élie doit venir, ils ont bien lu la Bible, ils l'ont bien interprété, pour rétablir toute chose. Mais je vous le dis, a dit Jésus, qu'Élie est déjà venu. Alors c'est très curieux, Jean dit, je ne suis pas Élie, et Jésus dit, Élie est venu, c'est Jean. Hein, puisqu'il est dit dans le texte de Matthieu 17 que les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors il est venu, il n'est pas venu. Est-ce que c'est Élie ou est-ce que ce n'est pas Élie? En réalité, c'est le prophète Élie, dans sa mission, dans sa puissance et dans l'inspiration que Dieu lui donne. C'est le prophète Élie en tant que tel. Mais ce n'est pas le prophète Élie en tant que réincarnation, idée que la Bible rejette. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué la réincarnation depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai rien compris, hein. Bible en main, j'ai rien compris, mais qu'est-ce qu'il y avait comme argument, hein? Oh là là! En fait, il est Élie, il n'est pas Élie. Hein? Il n'est pas littéralement Élie, même s'il est le Élie en esprit. Mais qui est Jean? En fait, Jean, c'est le panneau indicateur qui va indiquer Jésus. C'est lui. Et c'est vrai qu'on est assez impressionné lorsqu'on le voit. Voit Jésus venir se faire baptiser, c'est lui qui dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Il a reconnu le Messie. Bon, c'était son cousin, hein. C'est pas une affaire de famille, hein. C'est parce qu'Élisabeth était parentée de Marie, hein. Mais Jean dit finalement que sa mission s'arrête et que Jésus a besoin plutôt de baptiser Jean plutôt que lui. Alors Jésus va dire, non, fais ce qui est juste. Je suis venu pour prendre le péché du monde. Eh bien, on va aller jusqu'au bout. Mais en quoi cet envoyé de Dieu qui est envoyé pour les Juifs, en quoi est-ce qu'il nous concerne? En quoi est-ce que ce pratique sans du baptême, sans la réception du Saint-Esprit, nous intéresse-t-elle? En plus, c'est un baptême qui n'est pas fait au nom de Jésus. Hein? Alors, j'aimerais voir, pour finir assez rapidement, voir trois points qui révèlent Trois points importants dans le cœur de Jean. Vous savez, c'est, j'allais presque dire que Jean, c'est le dernier relais parce que c'est le dernier prophète. Après lui, il n'y a plus de prophète de l'Ancien Testament. Alors, il nous passe un relais précieux. Il nous passe les valeurs que Dieu a approuvées pendant tout l'Ancien Testament. La première valeur de Jean, c'est que Jean est un homme humble. Et Dieu aime ce qui est humble. Dieu aime ce qui est petit. D'ailleurs, son fils a été envoyé dans une étable et pas ni à l'hôtel, ni dans un palais. « Moi, je vous baptise, dit-il. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier les courroies de sa sandale. » C'est dans l'évangile de Jean. Dans Matthieu, il est dit « Je ne suis pas digne de les porter. » Alors, délier, porter, en tout cas, une histoire de rabaissement. C'est quelqu'un qui est humble, qui sait se rabaisser. Vous savez, on a tellement de problèmes aujourd'hui avec la médiatisation et la communication que parfois, on a l'impression d'assister à un show de la part de certains évangélistes plutôt qu'à un message où c'est Jésus qui est mis en avant. Jean est marqué par l'humilité. Mais cela n'empêche pas d'être audacieux et d'avoir un message fort. Hein ? Il parle contre le péché. Il dira aux collecteurs d'impôts et aux Romains comment se tenir devant les autres. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas par lui-même ni pour lui-même. C'était Marguerite Bode qui disait cela. Jean est un prophète qui ne dit pas ce qui lui plaît, ce qu'il pense ou ce qu'il croit. Parce que c'est Dieu qui parle en lui, un prophète qui ne s'appartient pas et sa parole, sa propre parole n'est pas sa possession. Voilà quelqu'un qui est là pour Dieu et par Dieu. Jean est appelé par Dieu pour annoncer un message, c'est son travail, il le sait. Parfois nous on n'a pas, vous savez, on n'ose pas témoigner, on est timide et on se trouve tellement d'arguments. Et finalement on dit « je suis humble, hein, je ne sais pas parler ». Je me demande si cette fausse humilité ne cache pas plutôt un orgueil. Un petit orgueil, vous savez, qui dit « comment est-ce que l'autre va me percevoir ?» Aïe, hein ? Comment ? Est-ce qu'il va me rejeter ? Ça, ce n'est pas la vraie humilité, mon frère, ma sœur. Et le pire là-dedans, c'est de présenter un évangile, vous savez, où l'homme est au centre et Dieu attrayant sans passer par cette petite porte, ce chemin étroit. De la reconnaissance de notre état. C'est Paul qui dira cela à Timothée. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison, on sait ce que c'est, on se fait piquer par des moustiques, hein. Ah, ça démange, hein. La démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, et ils détourneront leurs oreilles, et de la vérité se tourneront vers des fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en tout, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. C'est bon, il parle à Timothée, ça ne nous concerne pas, hein. Alléluia. Mais oui, ça nous concerne, hein. Et porter l'évangile, c'est pas facile, hein. Ça nécessite de l'humilité. La deuxième des choses, c'est que Jean est un homme de foi. Voilà la valeur qu'il nous transmet, que Dieu a prouvée dans l'Ancien Testament. « Moi, je vous baptise d'eau, dit-il, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire qu'il ne l'a pas vu. Il sait qu'il doit venir. Qui est-il ? Il ne le sait pas. Hein ? La foi croit en ce que Dieu promet, plutôt qu'en ce que nous voyons. Hein ? La foi vit dans le présent, avec les yeux dans l'avenir que Dieu a préparé pour nous. La foi est même prête à souffrir. Oui. Maintenant, afin d'entrer dans la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est pourquoi Jésus a dit que dans les jours de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui le ravissent. Alors, il ne faut pas faire d'attentat, ce n'est pas le but, hein, ce n'est pas ce type de violence. Vous pourrez comprendre que c'est l'opposition que rencontre la bonne nouvelle. Mon frère, ma sœur, quand tu rencontres de l'opposition parce que tu es chrétien ou parce que tu as affiché quelque chose ou parce que dans le monde il y a l'Église persécutée, c'est une réaction normale de la part du monde. L'opposition, ça c'est la violence contre le royaume de Dieu dont Jésus parle. Certains pensent que c'est la violence que le chrétien se fait. Et bien sûr, des fois, on se fait violence, parce que si on ne se donnait pas quelque électrochoc, ou Dieu, avec la lecture de la parole et la conviction de certaines choses, eh bien, on serait endormi. Jean passe son temps à parler d'une personne qu'il ne connaît pas avec certitude. Et il devra attendre le baptême de Jésus pour reconnaître l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que nous dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens? Il dit que ce que nous vivons ici-bas n'est qu'une légère affliction. On aurait presque envie de dire à Dieu, ben, j'aimerais t'y voir. Vous savez, la dernière fois, on parlait de ce verset, et puis avec un Nietzsche, ça me fait penser à un tableau de Picasso. Vous avez vu, j'ai vu un tableau de Picasso. Ben, ça ressemble à rien. Hein. Bon, ben ouais, ça ressemble à rien. Je suis désolé, enfin, certaines époques, hein, dernière époque, etc. Bon, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et tout le monde dit, c'est merveilleux. Hein. Mais quand on voit le prix d'un tableau de Picasso, et si on venait nous dire, on te l'offre, et on changerait d'avis, n'est-ce pas? Voilà, ce qui nous paraît comme ne ressemblant à rien a une grande valeur pour Dieu. Nos légères afflictions ici nous paraissent ressembler à rien. Parfois, elles produisent un poids éternel de gloire. Est-ce que Dieu aime les tableaux de Picasso? J'en sais rien. En tout cas, voilà l'image. Aussi, dit Paul, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées. Et les invisibles éternels, et au verset 7 du chapitre 5, il ajoute, nous marchons par la foi, non par la vue. C'est extraordinaire, hein? Nous avons déjà ce que nous n'avons pas encore. En gros, hein? Voilà ce que dit Jean. Vous avez ce Messie qui allait venir, qui va venir. Il vient après moi. Quelle foi de cet homme! L'identité du Messie ne lui a pas été encore révélée, qu'il sait déjà qu'il va venir et appelle le peuple à se préparer. Qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un homme agité par le vent? Eh bien, nous avons un homme humble, un homme de foi et un homme rempli du Saint-Esprit. Voilà les valeurs approuvées par Dieu. C'est dans l'Ancien Testament, tous n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils l'étaient, mais de temps en temps. Hein, c'est temporaire. Je crois que les deux personnes, c'est David, le Saint-Esprit est venu lors le jour de son onction, 1 Samuel 16, il n'a plus quitté. Et le deuxième, c'est Jean, Baptiste, qui a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et que dit-il, cet homme rempli du Saint-Esprit? Eh bien, il dit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, et tel argument, et tel argument, et tel argument. On est tellement plein d'arguments, hein. On en a, en stock, hein. Alors, et Jésus dira concernant Jean, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point qui s'est élevé de plus grand que Jean. Et cependant, je vous le dis, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mon frère, ma sœur, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Ça vous estomaque, hein, moi aussi. C'est pas moi qui le dis. Jésus le dit. Comment comprendre cela? Eh bien, on peut comprendre cela parce que ce que Jean a espéré, nous l'avons obtenu. L'Ancien Testament, c'est ce que Bernard a dit ce matin, c'est l'homme qui désire habiter la maison de l'Éternel. Le Nouveau Testament, c'est Dieu qui vient habiter sa propre maison qui est nos cœurs. Quel privilège! Le monde ancien de Jean-Baptiste va disparaître avec la destruction du temple. Et le monde nouveau avec la venue du Saint-Esprit. Nous sommes plus grands que Jean. Et je le dis humblement. Plus grands parce que, pas parce que notre monde est plus simple, hein, il est aussi compliqué que le monde à l'époque de Jean. Hein, mais nous sommes plus grands parce que la promesse a été réalisée. Nous sommes plus grands parce que Jean s'adressait qu'au peuple juif et Jésus et les apôtres sont adressés aux païens et aux hommes de toute nationalité, de toute race. Nous sommes des privilégiés. pas parce que nous sommes appelés à croire en celui qui va venir, mais parce que nous croyons que Jésus est là. Vous le croyez ? J'aime beaucoup l'image que Jésus emploie concernant Jean. Il dira, une histoire de jeune, peut-il manger ou pas, Jésus dit que Jean est l'ami de l'époux, et que l'époux, c'est lui. Cette image est forte parce que lorsqu'une mariée est devant le maire ou devant les autorités spirituelles, le marié ou la mariée disent « Oui, je le veux ». Vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez, hein ? Vous n'avez pas de mariage, c'est fini ? C'est la pandémie ? Bon, vous avez oublié déjà ? Ah, le monde ancien. Hein ? Oui, je le veux. Et parfois, mon frère, ma sœur, nous devons juste nous dire que ce « oui, je le veux », nous devons l'adresser à Jésus. Et ça, et c'est ma conclusion. Quand tu doutes, comme Jean qui était en prison, et c'est le contexte dans lequel Jésus a dit, il n'y a pas plus grand que Jean, mais je vous le dis que vous êtes plus grand, eh bien, on a besoin de dire au Seigneur, oui, je le veux. Tu dis que tu es mon refuge, tu es là, Jésus, oui, je le veux. Tu dis que tu es le pain de vie, oui, je le veux. Tu es le consolateur, tu es la paix, tu es mon bon berger. Oui, Seigneur, je l'accepte, je le veux. Tu es le soutien, le secours. Oui, je le veux. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes en cela plus grands que Jean. Oui, je le veux, c'est l'admettre. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit qu'autrefois vous étiez ténèbres, loin de la vie de Dieu, et que maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, alors marchez comme des enfants de lumière. Jean est passé, le relais a été donné, la promesse a été accomplie. Nous pouvons absolument vivre comme des enfants de lumière. C'est ce que je vous souhaite dans ce monde qui est très obscur. Nous sommes des enfants de lumière, alors vivons comme des enfants de lumière. Amen. Prions. Seigneur,